Ça s'est passé dans Fun For You sur Fun Radio.
On accueille aussi Fabienne Paul qui est avec nous en studio. Salut Fabienne.
Salut Fabienne.
Salut à tous.
Alors Fabienne, tu es Market and Customer Intelligence Specialist chez Partenamut. J'espère que je l'ai bien dit. C'est quoi exactement ton boulot finalement?
Donc en fait, si tu veux, tu peux traduire ça par études et recherche. Donc c'est un service dans lequel on effectue diverses enquêtes et analyses sur des problématiques sociales, des problématiques sociétales et bien sûr de santé. On essaye par là de voir ce qui touche nos affiliés et l'objectif est de mieux cerner ce que vivent ces personnes, les besoins, mais aussi les attentes qu'elles ont vis-à-vis de leur mutuelle, vis-à-vis de leur santé et aussi comment elles évoluent dans un monde qui est toujours en mouvement, toujours aussi compliqué, et donc d'épingler, je vais dire, ce qui fait sens aussi pour eux dans leur vie de tous les jours.
Alors, tu viens nous parler de votre dernière étude sur l'usage des écrans. Quel impact sur la santé physique et la santé mentale de nos enfants? On le sait d'ailleurs, hein, chez Partenamut, vous accordez énormément d'importance à la santé mentale. On va donc parler de cette étude tout au long de cette émission, notamment de chiffres qui sont ressortis de cette étude. Une étude que vous avez menée auprès de 2166 parents d'enfants de 1 à 18 ans pour comprendre l'impact de l'utilisation des écrans sur la vie familiale. Et il en est ressorti un premier chiffre, un parent sur 3 qui se dit en difficulté face aux écrans. Quel genre de difficultés on peut retrouver?
Les difficultés, c'est de mettre des limites.
Ouais.
La première difficulté, elle arrive là. Et surtout de pouvoir dialoguer avec l'enfant sur cette thématique en disant voilà pourquoi dans tel contexte je t'autorise à aller sur ta tablette, à regarder la télévision et pourquoi dans tel autre contexte je mets des limites. Ça, c'est la première chose qu'on constate. Mais aussi parfois par un manque de contrôle parce que les écoles utilisent de plus en plus aussi des écrans. Enfin, le numérique, il est entré dans notre vie. Et dans
notamment pendant le Covid. Hein.
Et le Covid a poussé les choses en avant. Et bien entendu, les écoles ont suivi le mouvement. Alors, il y a des bonnes choses, mais c'est vrai que pour les parents, limiter le temps d'écran quand les écoles elles-mêmes favorisent cette utilisation, ça devient compliqué. Et donc, l'enfant, il veut garder aussi son temps de loisir. Et quand le parent vient avec des limites, ça commence à être conflictuel. Et là, ça dérape.
C'est vrai que là je me dis, c'est peut-être une question pour ses parents. On pourrait se demander si chez ces parents-là, il n'y a pas un problème de limite au sens même plus large, qui du coup va déborder sur les écrans, qui ont une place très importante dans nos vies. Parce que ne pas savoir mettre un cadre au niveau des écrans, c'est ne pas savoir mettre un cadre peut-être tout court, mais bon voilà, ça c'était...
Mais oui, mais il faut reconnaître qu'effectivement, la charge mentale des parents, elle est reconnue dans d'autres études aussi. Mmh. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais les parents ont vie à 100 à l'heure, parfois même 200 à l'heure. Et donc, c'est vrai qu'on laisse les enfants aussi face à certaines responsabilités. Donc nous,
moi je me dis, si on travaille jusque 19h, que les parents, les enfants rentrent à 16h, il n'y a personne pour aller leur dire « tu ne peux pas consulter ton téléphone ou aller sur ton ordinateur ». C'est pas toujours évident, ça me semble évident.
Oui, et puis ça dépend des âges. Je crois qu'il faut être réaliste par ça aussi. C'est pour ça qu'on avait ici
un panel large,
très large, un panel assez large, quand même de 1 à 18 ans, parce que justement les choses sont différentes avec les enfants vraiment en bas âge. Et puis plus tu progresses vers l'âge adulte, quand même vers 18 ans, plus tu vois aussi les changements. Mm-hmm. Tu sais encore canaliser un jeune enfant et pouvoir gérer ça avec lui, c'est plus compliqué. Plus l'enfant est ado, donc on voit bien que les problèmes commencent à partir de 12-13 ans. Là, les difficultés deviennent vraiment de plus en plus importantes. Et plus l'âge avance, plus les difficultés deviennent aussi marquantes. Et donc, évidemment, nous, on s'est arrêté à 18 ans, mais on imagine que si on avait enquêté un peu plus loin, on aurait vu d'autres soucis qui apparaissaient.
Chez les adultes aussi, d'ailleurs.
Voilà.
Chaque soir, dès 19h,
démarrez la soirée avec Fun For You sur Fun Radio.
Et on passe le début de soirée ensemble jusqu'à 20h, hein, comme tous les jours de la semaine, avec Pénélope qui est toujours à mes côtés, puis Fabienne Paul, qui est Market and Customer Intelligence Specialist chez Partenamut. Tu viens de nous parler de la dernière enquête que Partenamut a réalisée sur l'usage des écrans et son impact sur la santé physique et mentale de nos enfants. Et on a quelques chiffres qui sont ressortis de cette enquête. Alors on le rappelle, c'est une enquête qui a été menée auprès de plus de 2000 parents d'enfants entre 1 et 18 ans. Donc pour un peu comprendre l'impact que peuvent avoir les écrans sur la vie familiale. On le disait tout à l'heure, un parent sur trois se dit en difficulté face aux écrans. Il y a d'ailleurs en moyenne 5 écrans par foyer. Donc pour revenir sur le un parent sur trois, ça représente 35% des parents interrogés qui éprouvent des difficultés lorsqu'il s'agit de gérer l'usage des écrans par les enfants. Et puis 52% même, ce chiffre monte à 52% chez les parents d'enfants de 13 ans et plus. Donc plus on est âgé, plus la problématique devient
Complexe. Oui, tout à fait. Et lorsque les personnes sont aussi en situation de famille monoparentale, on constate aussi que là, les préoccupations sont plus importantes et on sent que pour elles, il est nécessaire, en tout cas, d'avoir des conseils. Et donc, ces personnes, on les a interrogées s'ils allaient chercher du conseil, s'ils allaient aussi recevoir de l'aide. Et on voit que ces personnes, elles savent qu'elles sont dans une situation de préoccupation plus importante et elles recherchent aussi davantage d'aide que les familles structurelles habituelles. Et donc, je pense que là aussi, c'est un signal intéressant de voir que ces familles, même si elles sont plus exposées peut-être à des préoccupations, elles sont aussi assez réactives par rapport au fait de chercher de l'aide, de chercher des conseils. Et donc là, maintenant, il faut aussi trouver la bonne personne qui va pouvoir les aider. Et ça, ça dépend aussi un peu de la complexité que la famille vit et quel genre de situation il faut pouvoir gérer. Et donc, un psychologue, par exemple, si la situation est vraiment complexe, a tout à fait sa place au sein des discussions pour ramener, renouer du lien. C'est ça qui est très important aussi entre les parents et les enfants.
Alors, on a des chiffres, d'ailleurs, 38% des répondants qui ont expliqué et recherché des conseils et 5% donc auprès d'un spécialiste. Donc, on parle des psychologues dans ce cas-ci.
Des psychologues, mais aussi l'entourage est fort sollicité.
Ah ouais.
On voit qu'effectivement, on dit entre pairs, donc les parents vont chercher des informations vers d'autres parents en demandant « mais comment tu as fait ?» Ou aussi, au niveau scolaire, ils ont l'occasion d'échanger parfois avec les professeurs en disant « c'est difficile, effectivement, je vois que ces résultats scolaires sont en difficulté.
Ouais. »
Ils vont chercher vers le PMS aussi. Il y a des structures qui existent. Et donc, ils ne sont pas toujours identifiés. Donc, ces aides ne sont pas toujours visibles, mais ils recherchent dans le réseau des aides concrètes qui vont pouvoir les aider à dépasser le conflit ou trouver des apaisements au niveau du dialogue dans la famille qui parfois est tendue.
Oui, parce que j'imagine que parfois c'est aussi une recherche parce qu'on ne sait pas très bien à qui s'adresser. C'est des situations finalement qui peuvent être... Enfin, je me disais dans les situations par exemple de famille monoparentale, il y a toute la difficulté déjà tout simplement d'être parent seul avec tout ce que ça génère comme disponibilité par exemple, enfin, ou non-disponibilité, puisqu'en général il faut bien bosser à côté, et ça prend en général plus de place, tout ce qui va être tâche qu'on ne sait pas partager. Donc je me dis, il y a déjà ces difficultés qui sont posées. Et puis, vers qui on va. Donc, je me dis sans doute qu'ils bricolent un peu dans un premier temps. Et peut-être que d'un bricolage à l'autre, on finit par arriver chez des gens qui sont plus spécialisés ou le réseau psy, par exemple. Voilà. Bon, PMS, on est déjà dans le réseau psy.
Mais là, en général, on se tourne vers le psy quand il y a vraiment un gros problème où les conflits sont vraiment assez graves, assez lourds.
Et là où j'imagine qu'il peut y avoir de la violence, ce genre de choses.
Ici, certains parents nous disent qu'il y a une véritable addiction. Donc nous ne sommes pas venus avec ce terme d'addiction, mais les parents eux-mêmes, dans leur verbatim, nous partageaient cette notion d'addiction qui indiquait une dépendance vraiment à l'écran. Et ils disaient, effectivement, quand je lui demande de poser son smartphone ou sa tablette, j'allume le feu, c'est la furie, tout éclate en morceaux, je ne sais plus le contenir. Et la problématique vient de là. Comment faire pour agir sans moi-même perdre le contrôle ? Parce que bon, on sait bien que l'escalade est présente aussi. Et donc, le parent veut garder sa place, mais il veut aussi se faire respecter. Et ça, alors, ça emmène une escalade où l'enfant, évidemment, revendique, surtout les adolescents. Ben voilà, il y a une tension, on l'a vu, au niveau des âges. Donc, ça apparaît comme étant complexe à ce niveau-là.
Et entre 0 et 18 ans, je me demandais, est-ce qu'à un moment, ça redescend un peu ou ça ne fait vraiment que monter jusque 18 ans ? Je me dis, il y a peut-être une phase, tu vois, un peu entre 13, 15 ans, 16 ans, puis peut-être après, ils se concentrent, ils recommencent un peu à aller vers l'extérieur, vers les amis. Donc, je me demandais s'il y avait un pic ou si ça redescendait ou si ça fait vraiment que monter jusque 18 ans.
Alors, c'est plus ou moins quand même progressif, donc ça augmente avec l'âge. Mais tu vois qu'effectivement, au niveau des périodes, l'adolescence, tu as un premier palier vers 12-13 ans où vraiment les difficultés commencent à apparaître.
Avec la grosse découverte là, de l'autonomie des écrans.
L'enfant prend sa place et puis au niveau, enfin, il passe en humanité, il a aussi à ce moment-là au niveau des contenus, on peut parler peut-être alors à ce niveau-là des contenus, on voit bien qu'il bascule sur les réseaux sociaux. C'est l'âge où il commence aussi à vouloir te créer un compte Facebook, etc. Enfin, peut-être plus maintenant Facebook. Mais
on a les nouveaux réseaux, TikTok, Instagram. Mais il y a encore des jeunes qui vont sur Facebook.
Donc ça dépend un petit peu ce que son réseau, lui, d'amis, utilise. Mais alors, il va vouloir se connecter.
Ouais.
Et il va vouloir être tout le temps connecté. Et plus il grandit, plus évidemment ce réseau va s'étoffer. Et plus aussi les tentations de regarder des vidéos, de pouvoir en publier peut-être lui-même. Et donc là, le parent, on sait qu'il y a un contrôle parental qui peut être mis aussi par rapport à l'utilisation de certaines applications. Mais bon, le contrôle parental, il s'arrête à un certain moment. Et à 16 ans, boum, le parent, il ne sait plus vraiment ce que l'enfant regarde. Et là, tu peux aussi constater des difficultés. Mmh. Ce qu'il faut, c'est être attentif à ce que l'enfant regarde comme contenu, voir aussi quel est son intérêt. Et donc, il faut l'interroger là-dessus en disant, tiens, je vois que tu es connecté, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais. Il ne faut pas le faire dans un mode contrôle agressif. On peut le faire sous forme de dialogue en disant, tiens, je vois que tu es souvent occupé, tu as l'air de rigoler quand tu vois des choses, on peut partager, on peut rigoler ensemble. Il ne faut pas aller dans un mode non plus de diabolisation de tous ces contenus. Il y a des choses qui sont très chouettes et qui peuvent être partagées en famille, même les jeux vidéo.
C'est vrai qu'on en parlait hors antenne. Il y a pas mal de jeux vidéo auxquels on peut jouer avec des amis, avec la famille, qui sont très familiales.
Oui, puis je trouve que les jeunes, parfois, ils nous font découvrir. Enfin, moi, je sais que j'ai une fille de 19 ans, donc voilà, hein, ça va, on en sort plus ou moins. Mais elle est venue avec des trucs, moi, qui m'ont intéressé, que j'ai trouvé très chouette à regarder et que finalement, j'ai peut-être continué à regarder sans elle plus tard. Donc, je trouve qu'il y a quand même... c'est un super support aussi, quand même, les écrans pour plein de choses. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des... Parfois, je me dis, il y a des contenus, je me dis, oula, mais à quoi ça sert? Il y a des fois, je suis vraiment assez étonnée. D'abord, que les gens décident de se filmer dans ce cadre-là, et puis qu'il y ait des gens qui regardent, et ça devient même un peu fascinant. Enfin, en étant, moi, pas de la génération à la base écran, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de... Enfin, on en a déjà rigolé, mais genre, quand il y a des gens qui nettoient des tapis,
ouais.
À un moment, on commence à regarder, il y a un truc un peu fascinant, un peu addictif, comme ça, et puis parfois, à un moment, je me dis, mais qui se fout, t'es en train de regarder un gars qui nettoie un tapis, et on ne sait pas très bien pourquoi on rentre dedans. Alors, peut-être quand on n'est pas de la génération écran, il y a un moment, on en sort quand même, et chez les enfants qui voient ça en permanence, et on est sollicité, même quand on regarde autre chose, il y a les petites vidéos qui apparaissent partout, donc je trouve que c'est très compliqué de pouvoir savoir, ou même quand on sait, je trouve, même quand on se dit c'est des contenus qui n'ont pas de sens, on a quand même tendance à être happé par ça, et donc il faut vraiment faire parfois un effort pour sortir, alors qu'on sait pertinemment qu'on regarde un truc qui n'a aucun intérêt. Je parle d'expérience.
par rapport au contenu, de nouveau, on sait ici... Quand les enfants sont jeunes, c'est beaucoup de petites séries, de dessins animés, etc. Et plus ils grandissent, comme je disais, ben là, ils vont vers d'autres contenus, ils vont vers YouTube, etc. aussi, pour aller chercher des contenus un petit peu plus spécifiques. Après, de nouveau, il faut savoir dans quel contexte les enfants regardent ça. Parce que peut-être que ce visionnage, il vient aussi dans le cadre d'une volonté de se distraire, de s'échapper aussi d'une certaine réalité. Et les parents qu'on a interrogés le disaient, il est dans une bulle. En fait, il se met dans un univers virtuel qui l'amène à finalement être protégé de certaines choses ou dans un monde de couleurs, de musique, de choses attrayantes, même si c'est nettoyer des tapis. Bon, j'espère que non. finalement, pouvoir s'échapper de leur quotidien. Oui. Je ne dis pas que des familles ont parlé de ça, mais imaginons qu'à la maison, ça soit difficile. Bon, peut-être les parents ont tendu, ils font du télétravail, il y a différentes choses, un petit frère qui joue, qui pleure, enfin, c'est pas toujours évident. Eh bien, l'enfant va chercher peut-être une façon de se mettre dans une bulle virtuelle en jouant, en écoutant avec ses écouteurs une musique spécifique ou en regardant des vidéos. Il se crée un univers où il se protège. Et ce qui est intéressant de nouveau, on revient sur comprendre pourquoi il regarde ça, pourquoi il est aussi capté par ce type de choses, peut-être sans intérêt. Alors, c'est peut-être juste pour se vider la tête. Enfin, nous, quand on était plus jeunes, on disait qu'effectivement, on allait regarder un film comique pour un peu se vider la tête, toi, après les examens, des trucs comme ça. Les jeunes, ils n'ont pas nécessairement maintenant les mêmes réactions. Ils vont vers d'autres contenus. Le but est parfois simplement d'enlever la prise sur tout ce que l'actualité nous amène aussi d'anxiogène.
Mais c'est vrai que là, c'est là que c'est interpellant parce que moi qui travaille dans un service de toxicomanie, clairement, on est dans les processus d'addiction. C'est ça. Donc, il y a toujours une fonction positive à la consommation. Et donc, que ce soit la consommation finalement d'écran ou de drogue ou de n'importe quoi d'autre, c'est le fait de pouvoir à un moment se couper d'une réalité qui est trop compliquée. De pouvoir, comme tu disais, couper la prise. Alors, je pense qu'il y a des moments où on a besoin. Moi, parfois, après une journée de consulte, il faut aussi que je coupe la prise. Alors, je regarde un truc, super con. Mais ça me fait du bien, mais ça va durer un temps. C'est toujours le risque, c'est évidemment de s'enfermer complètement dedans et pas par petit à coup où ça peut avoir un bienfait. Mais que si ça devient une bulle perpétuelle, il n'y a plus de contact avec l'extérieur, plus de communication. Ben voilà, c'est ce que tu expliques dans le fait que finalement, les gens dans les familles communiquent plus. Alors, je trouve qu'on communiquait déjà pas beaucoup avant, mais les écrans n'aident clairement pas à comprendre l'autre aussi, à voir quelles sont les difficultés de l'autre. Je pense que sans nécessairement culpabiliser les parents, parce que je pense que c'est pas toujours évident. à la fois dans les vies qu'on a aujourd'hui, mais aussi, enfin moi j'ai toujours été attentive aux écrans et je trouve quand même que c'est une lutte à certains moments pour faire comprendre, pour expliquer. Dieu sait que moi j'ai l'habitude de communiquer et même comme ça, parfois c'est quand même compliqué. Donc je peux imaginer à quel point ils peuvent être en difficulté.
Il y a encore certains chiffres qu'on n'a pas vraiment évoqués, même si celui-là on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est 41% des parents d'enfants de 7 à 15 ans qui trouvent pénible que l'école en fait impose une utilisation d'une plateforme connectée. Tu le disais tout à l'heure, en fait, on donne accès un certain temps à nos enfants à des écrans et en fait, l'école vient un peu empiéter sur ce temps finalement puisqu'ils ont besoin des écrans pour les cours, pour plein de choses.
Oui, il y a cette notion-là d'avoir besoin des écrans, mais aussi d'avoir un équipement. Parce qu'ici, on n'a pas encore abordé ce point-là, mais c'est aussi un sujet qui est délicat pour certaines familles, c'est de devoir équiper les enfants de matériel valable, donc de smartphone quand même à la pointe, ou d'ordi, ou de tablette, etc. Et donc, il y a une discrimination qui peut se creuser aussi par rapport aux enfants qui n'ont peut-être pas le même type de matériel numérique. Et les écoles, évidemment, moi je pense qu'elles le font dans un but aussi de vivre dans son temps actuel. Il ne faut pas voir les écrans comme quelque chose de futuriste. On y est, le numérique est là à tous les niveaux.
On le disait tout à l'heure, ça a peut-être aussi été accéléré par le Covid et la fermeture des écoles. Et ils ont mis en place certaines choses qui finalement étaient peut-être pratiques. Ils se sont dit, on va continuer de les utiliser finalement.
Il faut continuer à les utiliser parce que ça apporte des choses très positives et ça donne surtout des accès formidables à des choses qu'on n'a peut-être pas eu nous, l'occasion de connaître avant le Covid parce que ce n'était pas développé de cette manière-là. Mais après, il faut pouvoir se rendre compte qu'il y a aussi cette difficulté pour certains parents de pouvoir équiper les enfants et aussi de pouvoir les autoriser, alors après l'école, de se reconnecter à la maison et peut-être sur un ordinateur qui est partagé avec d'autres membres de la famille. Ouais. Et donc là, les tensions arrivent aussi à ce niveau-là en disant, ben voilà, il y a un écran pour les jeux ou pour faire des recherches pour les autres enfants de la fratrie. Et celui qui veut jouer, ben voilà, les conflits commencent. Et donc, c'est ça que les parents disent. Si tu obliges l'enfant, même après l'école aussi, à se reconnecter, tu l'obliges aussi à avoir du matériel à l'école, du matériel à la maison. Et donc, ça fait beaucoup pour certaines familles qui essayent justement de limiter. Et comme tu disais, il y a plus ou moins cinq écrans ou appareils connectés par foyer. C'est quand même pas mal. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde et c'est parfois aussi dédicacé à des actions très spécifiques pour le télétravail ou pour gérer certaines actions dans la maison. Et on n'est pas tout seul non plus, on a tous les membres de la famille qui ont accès à un ordinateur et ça amène de nouveau des difficultés.
Parce que j'imagine que dans les 5 écrans, il y a genre la télévision, éventuellement l'ordinateur, mais il y a aussi tous les téléphones portables.
Oui.
Donc a priori, ça voudrait dire quand même, parce que moi je trouve que travailler sur téléphone portable, bon, c'est bien pour certaines choses, mais si on doit taper un texte par exemple, je trouve que c'est vraiment
insupportable. Et puis la distraction est quand même plus facile, il suffit de swiper d'une application à l'autre et on peut vite retourner sur TikTok. Quoi.
Donc ça veut dire, finalement, je me dis, pour une famille de 4 personnes, c'est pas énorme, je trouve, 5 écrans, vu qu'on pourrait compter que chacun a un téléphone, ça veut dire que les écrans de travail, par exemple, vont être moindres. Enfin, je peux supposer.
Et donc ici, c'est une moyenne. Et donc, on se rend bien compte aussi. Il ne faut pas oublier aussi que les plus jeunes enfants, donc moins de 12 ans, n'ont pas nécessairement un smartphone, mais vont plutôt sur la tablette familiale. Oui, ça, en général, c'est ça qui ressort. Et donc, ils sont équipés, en général, à partir de 10-11 ans. Donc, les parents par un smartphone ou un GSM basique. Mais alors, bon, là,
c'est toujours encore quand on passe dans l'école secondaire, souvent qu'on est équipé.
C'est souvent ce moment-là qui est un moment clé, je vais dire, pour équiper
l'autonomie
l'enfant.
L'autonomie aussi, les trajets, etc.
Et pouvoir aussi se parler et savoir où se trouve l'enfant. Hein, parce que bon, on sait bien qu'il y a différentes fonctionnalités sur les smartphones.
On peut toujours envoyer des SMS.
On peut aussi envoyer des entre et se téléphoner.
Alors, un autre chiffre assez important qui est ressorti de l'étude, c'est le temps en moyenne qu'on passe sur un écran. Par exemple, pour les enfants de 7 à 9 ans, c'est 55 minutes en moyenne. Et puis, ce temps augmente fortement entre 16 et 18 ans, puisque là, on passe à plus de 5 heures en moyenne sur des écrans. C'est énorme, 5 heures.
C'est énorme et on voit bien aussi qu'il y a une différence qui se fait, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à cet âge qui avance. Et donc, le temps d'écran augmente avec l'âge et les difficultés qui vont avec augmentent également. Ouais. Et donc, ici, c'est effectivement beaucoup. Il faut aussi compter que c'est le temps scolaire qui est compté. Hein. Donc, on est vraiment sur du temps d'écran tout compris. Ouais. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les parents ont quand même identifié une restriction au niveau du temps d'écran pendant la semaine scolaire. Donc, une fois que les enfants sont finalement du lundi au vendredi dans une routine liée à la scolarité, les parents sont beaucoup plus attentifs à mettre des limites et donc ce temps d'écran est réduit. Sur le week-end, en général, c'est plus libre. Voilà, on laisse un peu plus de liberté et évidemment, pendant les vacances scolaires, donc des vacances plus prolongées, la limite saute encore un petit peu plus et on passe un cap alors avec des heures un peu plus importantes. Ce qu'il faut après, c'est penser au retour en arrière. Ça veut dire quand on revient après les vacances scolaires pour reprendre les cours et qu'on va dire à l'enfant, bon, maintenant, tu réduis ton temps d'écran ou tu laisses le GSM ou tu passes à autre chose. C'est pas toujours évident. Et donc, c'est pour ça que établir des règles où pour l'enfant, c'est clair, c'est transparent, que dans tel contexte, on va lui accorder une facilité d'accès au numérique, aux écrans, mais que dans tel contexte, on ne va pas l'autoriser. Et donc, souvent, les parents nous disent, si je ne mets pas ce contexte, je sais que je vais directement aller au conflit, parce qu'il va me dire, oui, mais qu'est-ce que tu dis? Tu m'avais laissé faire. Et donc, c'est important. Et de nouveau, on revient sur vraiment la ligne forte, c'est le dialogue, échanger, se comprendre et identifier quel cadre est utilisé à tel moment et pourquoi je mets des limites en tant que parent et pourquoi je suis aussi intéressée à voir quel contenu tu regardes. Mmh. Mais tout ça, ça doit se faire dans le dialogue et dans l'échange.
On va peut-être un peu parler de l'impact de l'usage des écrans, notamment chez les enfants, du coup, impact physique et mental.
Oui, comme mutualité, évidemment, on s'est intéressé aux impacts au niveau de la santé. Et il nous intéressait en tout cas de savoir comment les parents identifiaient, parce que n'oublions pas ici, c'est des ressentis. On n'a pas été mesuré au niveau médical s'il y avait effectivement des difficultés particulières. On s'est interrogé, mais via les parents et le ressenti. Et il faut savoir qu'un tiers des parents disaient qu'effectivement, ils ne détectaient pas de changement particulier, qu'ils constataient que l'enfant, finalement, était assez stable au niveau de sa santé, n'avait pas remarqué de particularité. Ça, c'est un parent sur trois. Et donc, ça veut dire que deux parents sur trois, eux, constatent quelque chose, et notamment des changements. On en a parlé pas mal sur les conflits, les tensions, les difficultés, donc tout ce qui est aussi irritabilité. Et alors, il y a un fait qui est quand même revenu souvent. Il disait, l'écran prend toute la place. L'enfant n'accepte plus, il prédomine dans sa vie et l'enfant n'accepte pas même des propositions d'autres activités, ce qui rend vraiment aussi des difficultés au niveau de l'apprentissage, de la concentration et par la suite aussi des troubles du sommeil. Et ça, ça devient plus perturbant parce qu'effectivement, ça a un impact dans d'autres choses dans la vie de tous les jours et aussi au niveau du développement et de son bien-être psychique. Mmh. Et c'est là qu'on constate des enfants qui identifient régulièrement d'avoir des maux de tête, d'avoir aussi un sentiment d'anxiété, de mélancolie, parce qu'il y a certains contenus qui ne sont pas appropriés et auxquels il a accès. Et donc, ça le met dans une angoisse. Et donc, il est important aussi de savoir identifier ce changement de comportement pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Notamment au niveau de la vue, par exemple, on a interrogé un peu plus en détail en disant, que constatez-vous? Et ils le disent, oui, on voit que l'enfant a des difficultés au niveau visuel et donc souvent doit porter par la suite des verres adaptés ou apporter aussi peut-être au niveau de l'écran mettre un éclairage moins fort, etc. Parce que l'enfant est exposé, donc les yeux sont irrités, les yeux sont fatigués et l'enfant dit avoir une gêne oculaire parce qu'il est fort souvent devant les écrans. Autre point intéressant, c'est le sommeil. Ce sommeil est quelque chose aussi d'important, on le sait bien pour le développement des enfants. À partir du moment où il est perturbé, il y a des conséquences qui se remarquent pour d'autres points. Et aussi au niveau de sa santé mentale, on voit qu'il se rebelle puisqu'il est irritable du fait qu'il n'a pas eu une nuit correcte.
Comme on l'a déjà tous été, hein, je pense, quand on ne dort pas bien.
Clairement, ça c'est vrai. Et donc ici, les parents nous disent aussi bien la vue, ils vont voir un ophtalmologue, ils vont voir en tout cas un spécialiste pour trouver une solution. Par contre, par rapport au sommeil, ils disent, je constate très vite que finalement, quand je lui retire les écrans, les choses rentrent dans l'ordre. Et donc, la solution des parents, ce n'est pas d'aller consulter un spécialiste, c'est plutôt alors là de mettre des règles très strictes en disant « c'est fini maintenant, à 21h, tu arrêtes, tu n'as plus d'écran, etc. » Et donc, on voit que ces troubles au niveau de la santé impactent les enfants. Ils sont pris en charge par des parents qui sont préoccupés et visent aussi à retrouver rapidement du bien-être. Et de nouveau aussi, par rapport plutôt à une notion, quand je parlais de santé mentale aussi, cette notion de crainte pour les parents d'être harcelés, c'est aussi quelque chose qui, alors, dans le chef des parents, les nourrit aussi par rapport parfois, je ne vais pas dire à des fantasmes, mais par rapport à des craintes. Et donc, il faut en parler aux enfants aussi en disant avec qui tu converses quand tu es connecté. comment ça se passe avec ton réseau d'amis et essayer de noter aussi s'il n'y a pas des changements de comportement par rapport à des replis sur soi, à de l'isolement, parce que ça, ça fait aussi partie de troubles qui sont notés par les parents qui sont inquiets pour la santé de leur enfant.
J'imagine.
Alors, on rappelle quand même les avantages hein, de Parthénamut, qui intervient jusqu'à 320 euros par an pour toutes les séances de psychologie individuelle et thérapie familiale, à raison de 20 euros par séance, pour un maximum 16 séances par an. Oui. On va peut-être juste, tu as quelques conseils, quelques points si.
Peut-être en conclusion, simplement dire. L'important, c'est de garder ou de renouer le dialogue entre les parents et les enfants. Et ça, ça reste pour les écrans, mais pour tout le reste aussi.
La communication, on en parle souvent dans l'émission. Ouais, un terme que Pénélope utilise souvent. Ah ben
voilà, communication, donc, communication.
C'est la base, comme dirait une certaine marque. Et donc, il est essentiel de surveiller aussi ce que l'enfant regarde, en tout cas de s'y intéresser et de voir que son contenu numérique est approprié à son âge, est approprié aussi au moment où il le regarde. Il ne faut pas non plus le mettre face à des choses qui ne correspondent pas. Et il faut aussi contrôler le temps qu'il va passer sur les écrans pour lui éviter aussi de finalement perdre beaucoup d'énergie sur des choses qui ne sont finalement pas qualitatives et aussi éviter l'apparition de conflits. Il ne faut pas non plus diaboliser les écrans parce qu'ils apportent des choses qui sont intéressantes, qui sont importantes et ça fait partie de nos vies. Donc il ne faut pas non plus vivre dans une autre dimension, mais il faut bien définir dans quel espace on va fonctionner et notamment aussi quelle place on va lui donner dans notre vie familiale. Et ramener aussi peut-être les parents qui avouent clairement, hein, dans notre étude, ils nous ont bien avoué qu'ils ne montraient pas toujours l'exemple et ils ont fait un mea culpa par rapport à ça. Ils disent « je dois aussi d'abord aussi m'interroger moi-même sur mon usage des écrans ». Pour être cohérent avec le message que je veux faire passer à mes enfants. Et donc aussi, on l'a dit, on en a rigolé, mais c'est important que les parents et les enfants partagent des moments ensemble et pourquoi pas sur des jeux vidéo ou des activités où ils vont renouer du jeu, de l'interactivité, du lien. Et surtout, un point qu'on n'a pas abordé, c'est les tout-petits, donc les 0-3 ans. On n'en a pas parlé parce que dans notre étude, on a commencé à 1 an. On ne pensait pas que les tout-petits allaient être aussi exposés. Mais notre experte qu'on a consultée et qui est vraiment sur ce segment-là a bien indiqué qu'ils sont impactés même s'ils sont tout jeunes. Et il faut y être attentif.
Du lundi au jeudi,
de 19h à 20h,
c'est Fun for You avec Parthénamut sur Fun Radio.